Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, de plus en plus nombreux et nombreuses. Et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain qui va nous faire voyager. Et Bertrand Chameroy pour son écran de veille qui va nous faire naviguer. Notre invité, musique, c'est le duo Madame Monsieur. Ils vont nous parler de leur nouveau single, Cœurs Abîmés. Hélène Manarino va nous dresser leur portrait inattendu, croisé. Et puis dans les indispensables, le nouvel album live de Norah Jones. C'est Eva Rock qui est avec elle. Et puis la tendance de l'ail des ours. Charlotte Langrand va tout nous dire. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Bertrand, nous sommes vendredi.
C'est bien, vous suivez. Je vous remercie pour l'éphéméride, Philippe. Oui, effectivement, nous sommes vendredi. Je vous parle donc du conseil. Alors non, pas le conseil de Koh-Lanta, un autre type de conseil dans lequel l'ambiance est à peu près la même. Ceci dit, les adversaires se tirent dans les pattes et font tout pour faire dégager leurs ennemis. Je parle de conseil municipal. Vous le savez, aujourd'hui, tout est filmé, même la radio. Les conseils municipaux ne dérogent pas à cette fâcheuse tendance. J'ai donc regardé le conseil municipal de la ville de Vincennes. Je sais me faire plaisir. À l'ordre du jour, notamment, du nautisme. Ouais, ça n'apporte pas grand-chose à la chronique, mais ça fait toujours du bien d'écouter du Véronique Jeannot avant le week-end, en tout cas à moi. Était donc discuté le vote d'une subvention pour le Yacht Club de la ville de Vincennes, subvention qu'a refusé de voter un jeune élu Europe Écologie Les Verts, ce qui lui a valu une question de la maire de Vincennes.
Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le Yacht Club ?
Et alors attention, accrochez-vous, voici l'explication.
Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote, nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants.
Vous n'avez pas l'image, mais après avoir dit ça, il appuie assez fièrement sur le bouton pour éteindre son micro. Bam, drop the mic, c'est tout pour moi, je vous ai bien mouché, sauf que...
Des quoi ? Des polluants ? J'ai pas entendu.
Le Yacht Club, c'est des bateaux.
À voile.
Le Yacht Club, même s'il comporte le mot yacht, est un club de voile. Donc à toutes fins utiles, je précise à ce monsieur que contrairement à ce que son nom laisse croire, Delphine Bateau ne pollue pas non plus et que les énergies fossiles n'ont rien à voir avec le mascara. Si un son devait résumer ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de l'élu au moment où il s'aperçoit de sa bourde, c'est celui-ci, mon son préféré. La saxo embourbée, après avoir confondu yacht et voilier, le voici donc parti pour de l'aviron.
Oui, mais il n'y a pas un port en France, c'est bien une convention en Irlande, avec un port irlandais, non ?
C'est de la voile, c'est, ça avance avec le vent.
Et comme si ça ne suffisait pas, la mère n'a pas pu s'empêcher de l'enfoncer encore un peu plus.
Donc en fait, la raison de votre abstention, c'est parce que... la pratique de la voile est polluante. Yeah.
Alors vous l'imaginez, la séquence a beaucoup circulé, les commentaires moqueurs ont fleuri. 24 heures après, l'élu a donc tweeté un complément d'explication et je le soupçonne d'avoir pris des cours d'alibi chez Pierre-Jean Chalençon. Je le cite, « Non, nous ne souhaitons pas donner de subvention à une pratique qui nécessite de prendre sa voiture pour l'effectuer. » Car les téléportations Vincennes-Port, ça n'existe pas. Smiley qui sourit. Bien tenté, mais curieusement, cet argument n'a pas convaincu. Message retiré, il a finalement, et c'est assez rare pour le souligner, reconnu son erreur ce matin. Depuis toujours, Europe Écologie Les Verts est pour la captation vidéo des conseils municipaux au nom de la transparence. Et ok, parfois on regrette. J'avais bossé mes partiels, un peu moins mes dossiers, mais à culpa. Allez, bon vent à tous, à lundi.
Ah, bien joué,
merci,
Bertrand.
Merci Bertrand. Eva Rock, dernier zapping de la semaine. Que faut-il regarder ce week-end ? Est-ce qu'il y a un thème qui se dégage des programmes que vous avez retenus ?
Oui, les Terres Inconnues et aussi, alors je vous en conjure, demain soir, si vous regardez Arte, faites-le sur le plus grand écran que vous ayez à la maison, mettez le son très fort pour découvrir les métamorphoses du continent blanc, l'Antarctique en l'occurrence. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les espèces qui vivent dans cette zone du globe terrestre ? On va essayer un petit blind test ?
Allons-y.
Allez. Un lion.
Ça ressemble à quoi ?
À la saxo qui s'embourbe.
Bah ouais, c'est un lion. Non, mais la saxo qui s'embourbe, mais aussi un lion de mer, exactement, Bertrand. Animal peu commode, hein. Massif, très massif. Allez, autre animal qui peuple par milliers ces terres.
Un oiseau.
Oui, exactement. Alors, quel type d'oiseau ?
Une poule d'eau,
manchot.
Ouais, manchot, exactement, Philippe. Ah, mais vous êtes trop fort, des manchots. Il y a 18 espèces de manchots qui existent sur cette planète, sur ce continent. Alors, attention, vos enfants risquent de craquer pour un de ces oiseaux, justement. Ils vont rêver d'en avoir un comme animal de compagnie, donc attention.
C'est le chat qui va aimer.
Oui, le chat qui va adorer, exactement. Dernière créature. C'est facile.
Une baleine ?
Mais oui, baleine à bosse, majestueuse, autant de merveilles, écoutez bien, de la nature, donc, qui pourraient disparaître.
Si l'écosystème se détraque, cet habitat disparaîtra. Certaines espèces mourront, alors que d'autres proliféreront. Sans compter le dérèglement de l'écosystème des virus et des bactéries, qui pourraient être fatales à l'humanité.
Alors les images de ce documentaire sont sublimes, sont rares et on mesure en fait à quel point elles pourraient totalement disparaître si l'urgence climatique n'est pas prise en compte. Le film, par sa beauté et son intelligence, relève vraiment du travail d'orfèvre et un travail historique aussi parce qu'il est question des premiers hommes à avoir mis les pieds sur ce continent mystérieux. Lui, il fut le premier à poser le pied sur la Lune. Redécouvrez l'épopée de Neil Armstrong grâce au film de Damien Chazelle, First Man, dimanche sur France 2, extrait de la conférence de presse dans le film, hein, avant le départ d'Apollo 11 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin.
Quel effet ça vous fait quand vous vous dites tout d'un coup, dis donc, si le vol réussit...
Nous ne prévoyons rien d'autre qu'une réussite sur ce vol.
Je voulais dire, quel effet ça vous fait l'idée d'entrer dans l'histoire?
Je peux peut-être vous éclairer là-dessus. C'est une responsabilité, mais c'est aussi réjouissant d'être le premier là-haut. Même ma femme se réjouit. Elle arrête pas de fourrer des bijoux dans mon kit personnel.
Vous allez emporter ces bijoux sur la Lune, Buzz?
Oui, c'est plutôt sympa de pouvoir donner à sa femme l'occasion de se vanter.
Et vous, Neil, vous prendrez quoi?
Si je pouvais, je prendrais plus de carburant.
Anecdote véridique, c'est un film d'aventure, une aventure spatiale évidemment, mais surtout humaine, avec dans le rôle titre Ryan Gosling. L'Antarctique est donc à découvrir sur Arte demain samedi à 20h50 et la Lune, c'est sur France 2 à 21h05 dimanche soir.
Merci beaucoup Eva Rock, vous serez en vacances la semaine prochaine en Antarctique ou pas, on sait pas.
Eva nous manquait.
Ouais.
Eva... Oh,
il
magnifique.
L'a préparé, il m'a dit, hier il m'a dit j'ai une super vanne pour demain. C'est Clémence Olivier qui va s'occuper du zapping dès lundi. Vous partez pas tout de suite parce qu'on va vous retrouver tout à l'heure pour votre indispensable musical. On va parler de jazz, mais pas seulement. Bertrand Chameroy, merci. Nous, on vous retrouve lundi également. Et aussi, vous serez avec Mathieu Béliard à 7h40. Dans un instant, on sera avec le duo Madame Monsieur. D'abord, leur nouveau single, il s'appelle Cœurs abîmés sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Faudrait dormir.
abîmés, c'est Madame Monsieur sur Europe 1. Nos invités dans un instant vont parler de ce nouveau single et de l'album Tandem. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Émilie Satt.
Bonjour, bonjour.
Vous représentez Madame Monsieur, c'est un groupe, c'est un duo, c'est un couple musical, c'est un couple à la ville. Jean-Carl Lucas, qui devait être là, n'est pas là. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Rien de grave, une petite intoxication alimentaire. Malheureusement, il a dû faire demi-tour dans les studios.
Ouais.
Mais voilà, je vais essayer d'assurer toute seule.
Il est en bas d'Europe 1, il est reparti. On le salue, il nous écoute dans le taxi. Vous êtes un groupe, je l'ai dit, un couple, je l'ai dit. Vous êtes même des parents, puisque vous avez eu cet été un petit garçon. Je trahis aucun secret intime, vous l'avez mis sur les réseaux sociaux. Il s'appelle comment ?
Il s'appelle César.
Il a quel âge ? Il nous écoute ?
Il a 8 mois, certainement il nous écoute. Ouais, ouais, avec ses grands-parents, c'est sûr qu'il nous écoute.
Alors, votre nouveau bébé, on vient de l'entendre, c'est un single, il s'appelle Cœurs abîmés. De quel cœur parlez-vous dans la chanson ?
Alors, de quel cœur on parle ? On parle du cœur en manque de l'autre, c'est-à-dire de nous tous en ce moment, principalement. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. En fait, de cette réalité du manque de l'autre qui fait qu'on se sent exister, même si l'autre est inconnu de nous, du besoin qu'on a d'aller danser en boîte, d'aller dans les bars, se toucher, frôler les autres et se sentir vivant en étant au milieu en étant anonyme au milieu de la foule. Mais c'est très important et ce manque-là, on l'a traduit en chanson avec ce titre-là.
C'est une chanson au Covid, une chanson confinement.
on peut appeler ça comme ça, ouais.
Vous l'avez faite comment ? À la maison ?
On l'a faite à la maison, comme la plupart de toutes les chansons qu'on va sortir prochainement, puisqu'on a eu pas mal de temps pour bosser, effectivement. On a été assez inspirés par cette période.
Ça allait être ma question, parce qu'il y a deux types d'artistes.
Ouais,
il y a ceux qui ont été bloqués
ouais.
Et d'autres totalement énervés par l'inspiration, ouais. Justement, du confinement, paradoxalement.
Ben oui, alors on fait partie de la catégorie de ceux qui ont été inspirés. Faut dire que c'est assez facile dans le sens où on est tous les deux ensemble à la ville comme à la scène. Et donc à la maison, on a finalement tout ce qu'il faut. Quand on est ensemble, on a une guitare, de quoi enregistrer, de quoi produire même. Et il suffit de vouloir pour faire des chansons.
Et il y a un nouvel album qui arrive.
Il y a un nouvel album qui va arriver.
Je pose la question,
parce
que vous êtes très, très, très prolixe.
Ouais.
Parce que le précédent album, il était sorti il y a peu de temps, c'était en janvier dernier. Mm-hmm. Déjà, donc c'est rapproché. Et ensuite, on dirait que je suis le gynéco qui parle aux parents, qui dit c'est très rapproché, ces deux enfants. et pas moins de 26 titres.
Oui, sur Tandem, notre album précédent. Ouais, c'est sûr qu'on a été... On a été prolifique, mais c'était ça, notre envie, c'était vraiment ça, c'était de faire un album très fourni avec 26 invités, 26 titres, 26 invités d'univers différents. Et parce que c'est ce qu'on aime, on aime faire des chansons et s'entourer de gens avec lesquels on n'aurait pas forcément l'idée de travailler, parce que ça provoque des situations et ça nous fait sortir un peu de nous-mêmes.
On va parler de ses choix, il faut dire, l'album s'appelle Tandem, je l'ai dit, chaque titre est un duo. Je voudrais qu'on entende le début du titre, Tout le monde s'en tape, c'est un duo avec Claudio Capeo.
Je n'aime pas la mer, je n'aime pas les gens, je n'aime pas l'hiver et je suis jamais content. J'aime pas la misère, je te mets la misère, pour te démonter, moi j'ai tout mon temps. C'est déprimant, le pont des soupirs, c'est mon appartement. Est-ce que tu le connais, le chant des critiques, le son du néant. 1, 2, 3, si tu veux la guerre, crois-moi, non, tu ne l'auras pas. 1, 2, 3, mais si un jour tu veux la trêve, plus personne ne voudra de toi.
Tout le monde s'en tape ou pas, à qui vous en prenez-vous dans ce texte ?
On s'en prend aux gens, je pense, qui ont la critique facile, qui parfois nous mettent dans des cases. En fait, j'essaie de mettre le casque, mais j'aime mieux sans, je peux l'enlever.
D'accord, bien sûr, bien sûr.
Et oui, des gens qui parlent sans savoir, qui cherchent pas forcément à comprendre, qui jugent un peu vite. Et voilà, c'était une façon un peu marrante de leur répondre. En fait, on s'en fout de leur avis.
Et alors le son est assez étonnant, parce que j'ai choisi à dessein cet extrait. Mmh. Ça démarre comme de la chanson française, et ça termine comme de la musique urbaine. Parfois, il y a des titres qui sont très très rap, avec des grosses, des basses de rap comme ça. Il y a même de l'autotune. On vous attendait pas sur ce terrain ?
Et pourtant, c'est un terrain qu'on pratique depuis des années. On a même commencé vraiment à se faire connaître en travaillant avec des rappeurs, avec Youssoupha, en faisant des refrains, en collaborant. On a sorti un premier EP, Tandem, ouais. Aussi, il y a quelques années, avec déjà des duos avec DC's. Avec Joker, avec pas mal de rappeurs avec lesquels on a travaillé. Et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on aime faire depuis longtemps. Donc c'est assez naturel pour nous de se frotter à l'urbain.
Mais je pensais aux gens qui ne vous connaissent que par l'Eurovision dont on va parler tout à l'heure. Oui. Ils ont pu être surpris et heureux surprise. Dans l'album, on peut trouver Jérémy Frérot, Black M, Attic, Amir, Bilal Hassani et autres duos que je vous propose. Dans un instant, c'est le portrait inattendu. C'est Hélène Manarino. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Émilie Satt, c'est la créatrice, la chanteuse de Madame Monsieur avec Jean-Carl Lucas. Jean-Carl est venu, il est venu jusqu'au couloir. Je sais pas ce que vous avez cuisiné hier soir, il est reparti, il n'a pas pu faire l'émission. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même votre portrait inattendu. Quel duo, Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Hélène. Bonjour Vandel, bonjour à tous, bonjour Madame, bonjour Émilie.
C'est une première pour moi là, je vous avoue.
Mais pour nous aussi, pour tout le monde. Moi je salue Monsieur qui nous écoute depuis le taxi.
Alors, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Mm-hmm. Alors, Bill, c'est votre surnom.
Aïe, oui.
Émilie.
C'est pas vrai.
Depuis toujours.
Dans le texte, j'ai cru que c'était le nom du garçon.
Non, c'est Bill.
C'est sur moi, c'est moi.
Ah ouais, Bill.
Amoureux, inséparable, fusionnel, complémentaire, on va le prouver. Mais avant cela, revenons sur l'enfance. On va dévoiler vos secrets, Émilie. Pendant qu'à l'âge de 5 ans, vous improvisiez des pièces, des spectacles au milieu de votre collection de dinosaures. D'ailleurs, vous vouliez être paléontologue. Jean-Carl, lui dessinait beaucoup et à l'âge de 3 ans, quand il allait chez sa tante, il allait chercher des baguettes chinoises dans le placard pour faire de la musique.
J'adore, parce que, juste un mot, elle apprend des choses sur
cette
son mec.
Cette femme est une sorcière, d'où vous avez toutes ces informations.
Non, c'est une joyeuse sorcière. Mais en revanche, elle circule sur un balai, ça c'est vrai.
Émilie, vous ne vous sépariez jamais de votre doudou, un sweat rose que vous avez toujours, ça, d'ailleurs.
Non, vous l'avez lavé. À peine.
Gourmande, surtout de fraises tagada, ce qui pouvait vous détendre. Cuisiner des pâtisseries de Noël avec votre grand-mère, Mamie Kéou. D'ailleurs, cette mamie qui, lorsqu'elle vous voit chanter dans une chorale d'enfants que vous aviez intégrée avec votre sœur, elle déclare « J'ai failli faire pipi dans ma culotte, tellement c'était beau ».
J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, là, de toutes ces informations.
Or, c'est de vous dont il s'agit.
Oui, tout à fait. C'est troublant. C'est ouais. Troublant.
Jean-Carl faisait de la musique tout le temps. D'ailleurs, il a même créé une valse pour son chien à l'âge de 9 ans. Émilie,
valse pour Gepetto, tout à fait.
Vous faisiez de l'origami, vous écriviez des poèmes, des essais, des chansons, vous écoutiez Patricia Cass, Enzo, Morane, dans votre chambre tapissée des dessins de votre amie Aurélie. Vous ne vous étiez pas encore rencontrés, mais vous rêviez, Jean-Carl et vous, de la même chose. Jean-Carl, lui, en écoutant ça.
Je rêvais d'une autre terre.
Et vous, Émilie, vous, c'était une autre ambiance.
Hakuna Matata.
Et oui, Émilie, vous rêviez de musique. D'ailleurs, c'était une évidence. À l'âge de 13 ans, à la fête de la musique, vous avez chanté Pesame Mucho. Vous êtes descendue de scène, vous avez regardé vos parents et vous leur avez dit, je vous ai dit que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. Alors, avant de vous rencontrer avec Jean-Carl et de partir pour la grande vie, Émilie, vous avez enchaîné quelques petits boulots à 16 ans. Vous fabriquez des bijoux avec des végétaux et de la résine que vous vendez sur la plage en Corse.
La tête qu'elle fait.
C'est vrai.
Et puis, vous avez été caissière dans un supermarché pendant vos études et vous écriviez derrière les tickets de caisse toutes les petites anecdotes des clients.
J'avais des caisses remplies d'anecdotes. En fait, au départ, quand j'ai commencé ce boulot, j'étais un peu effarée de voir, en fait on voit la vraie vie derrière une caisse de supermarché. Je me suis dit comment je peux transformer ces gens incroyables et ces anecdotes incroyables qui se passent en fait tout le temps dans cette
et vous les avez toujours dans un sac chez
vos parents en disant un jour j'en ferai quelque chose.
Et il y a quoi comme anecdote par exemple? Vous me direz après si vous devez y réfléchir.
Non, non, il y a évidemment tout ce qui est drague, du bon père de famille qui passe au supermarché avec ses enfants et sa femme et qui vous revient en courant jeter son numéro de téléphone alors que vous l'avez croisé avec sa femme et ses enfants juste avant. Mais je me souviens aussi, par exemple, de cette dame très propre sur elle avec sa gamine qui était un petit peu turbulente. Enfin, c'était une enfant, quoi. Et elle passe très polie, très bien habillée, très aimable. Elle me dit, elle n'arrête pas de reprendre sa gamine. Et elle lui dit, ma chérie, calme-toi quand même, reprends-toi. Et puis bon, elle me prend à témoin et elle finit par dire à sa fille, calme-toi ou sinon tu vas finir comme la jeune fille, n'est-ce pas mademoiselle? Dites-lui.
Waouh.
C'est quand même incroyable.
Hélène Manarino.
Alors, Émilie, Jean-Carl, couple référent, il est temps de montrer que tout est là pour que vous soyez ensemble. Vous rêviez tous les deux de vivre à la campagne, c'est chose faite. Vous avez travaillé ensemble dans la restauration. Émilie, vu que vous cuisinez tout le temps, sauf qu'en ce moment, Jean-Carl cuisine beaucoup et ça vous agace parce que vous ne pouvez plus le faire.
Ouais.
Et il fait de la cuisine italienne. Très bon choix.
Avec des produits pas toujours frais alors.
Gourmande, oui, rien d'étonnant que vous avez été capable ensemble de manger un fast-food debout dans le train et le voyage durait 5 heures. Bon, vous aviez bien fait la fête la veille avec le groupe Kyo, et oui. Alors, pendant que Jean-Carl écoute ses vinyles, Émilie, vous adorez vous faire les ongles ou tenter de nouvelles coupes de cheveux, et oui.
Okay.
Même humour, surtout en ce qui concerne les noms de chats, par exemple Shazam, Shakira, je vous laisse comprendre.
Oui.
Votre chat fait 8 kilos, en revanche, vous l'appelez tout petit, et oui. Faire rire les autres, quand Émilie vous imitait à la perfection l'accent du Sud, quand Jean-Carl, lui, enchaîne toutes les répliques de Kaamelott ou de OSS 117, et oui. Il y a aussi votre groupe WhatsApp où vous faites des concours de jeux de mots ensemble, évidemment. Alors, Émilie, Jean-Carl, oui, vous ne vous séparez jamais, loyal, généreux, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre et le public ne peut se passer de vous.
Merci, Hélène Manarino.
Merci beaucoup.
Rapidement, réaction, vous êtes reconnue?
Bah oui,
monde
oui,
parallèle.
Je suis très perturbée, oui, d'entendre toutes ces informations.
Moi aussi. Et moi, j'embrasse le chat de 8 kilos. Et merci
oui.
beaucoup, Hélène. Bon week-end.
Merci
à lundi,
beaucoup.
Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie, d'Emily Sade, c'est la moitié du groupe Madame Monsieur. Ils sont ici avec nous, on parle de Cœur Brisé, c'est le nouveau single qui est sorti. Tandem, cet album de duo. Il y a toutes sortes de duos avec toutes sortes de gens. Il y a aussi un titre qui s'appelle Zéro et qui raconte le harcèlement de rue. Malheureusement, on sent que c'est du vécu. Emily, vous avez écrit cette chanson à partir de votre expérience. Que raconte la chanson?
Elle raconte ce que vivent toutes les nanas dans ce monde, malheureusement, que ce soit d'une façon très grave ou même du simple petit sifflement quand on passe, en fait. Elle raconte les harceleurs.
Et là, c'est explicite. Ce qui m'a vraiment frappé dans ce titre, c'est que c'est Lord Esperanza qui fait le type et il s'est pas donné le beau rôle.
Non, c'était très intéressant quand on a construit cette chanson. On lui a demandé de venir travailler avec nous sur ce thème là, en supposant qu'il allait s'adresser lui aussi aux hommes que j'appelle les zéros, c'est ceux qui harcèlent, ceux qui se croient forts quand ils sont face à une femme plus faible. Et lui, il a préféré prendre le parti de se mettre dans la peau de ce harceleur. Et c'était assez gonflé parce qu'il est vraiment très antipathique sur ce morceau.
Ouais.
Mais il y a quelque chose d'ultra sincère aussi qui, je pense, est plus interpellant encore que s'il avait fait comme moi de s'adresser aux hommes qui harcèlent les femmes.
Bien sûr, et c'est pour ça que j'en ai parlé ici, ça m'a frappé. J'avais jamais entendu un morceau pris sous cet angle, et je peux même pas passer d'extrait parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent.
Ouais.
Mais dans les textes de Lord Esperanza, il y a des choses qui sont.
Il est très beau, son couplet est vraiment très très beau. Il a été habité par ce qu'il racontait. En fait, on a beaucoup parlé avant d'écrire ce texte. Je lui ai parlé effectivement de mes expériences personnelles et j'ai senti qu'il avait pris ça très au sérieux, très à cœur.
Beaucoup plus joyeux. En décembre, vous aviez demandé à vos fans de leur envoyer leur plus beau slow. C'est devenu quoi?
Pas grand chose en fait.
Je suis désolée.
Pas grand chose, non. On a reçu pas mal de vidéos, mais oui, c'était l'idée après cette période compliquée, de se retrouver, de faire des câlins, d'un peu de chaleur humaine, voilà.
Un peu de chaleur humaine. Je me tourne vers vous, Eva. À cause de ce dont vous allez nous parler, un
album
qui sort aujourd'hui. C'est que c'est toujours un peu risqué de parler musique devant des musiciens.
Cherchez pas à mettre de la discorde entre nous, parce que Émilie, elle a grandi dans mon sud, enfin
c'est
dans notre sud, à Vence, donc elle me soutiendra de toute façon, même si elle n'aime pas l'artiste dont je vais parler. C'était en 2002, une jeune femme débarquait sur la scène jazz avec ce titre.
«
l'ai reconnu évidemment, je l'avais acheté dès la sortie.
Mais
c'est
oui,
Norah Jones,
exactement.
Don't Know Why.
Premier titre de son premier album.
Alors, ses albums.
Voilà. Mais alors quand je dis qu'elle débarque sur la scène jazz, pour être tout à fait exact, ses albums sont rangés dans la catégorie jazz. En revanche, ceux qui se revendiquent un peu comme les gardiens du temple vont lui fermer la porte. Mmh. Elle ne peut pas rentrer dans cette catégorie parce que c'est beaucoup trop commercial. Dommage pour eux, l'album en question s'est vendu à 26 millions d'exemplaires.
Et alors l'extrait qu'on vient d'entendre est dans ce nouvel album.
Oui, alors je suis sûre que vous avez entendu cette espèce en voie de disparition, à savoir des spectateurs. Vous savez, ces gens qui applaudissent, qui se manifestent, qui ressentent des émotions. J'ironise, mais en fait c'est parce qu'elle était bien en manque de scène que Norah Jones a choisi de sortir cet opus intitulé Till We Meet Again. Ce sont ses plus belles prestations live faites entre 2017 et 2019. C'est un tour du monde de ses tournées et de sa musique. Morceaux aux accents quasi orientaux grâce à cette flûte qui rappelle aussi que Norah Jones est la fille de Ravi Shankar, immense joueur de sitar indien décédé en 2012.
J'avais oublié, c'est son premier album live.
Oui, et alors on sent que Norah Jones, elle a voulu montrer des différentes facettes de son talent et ça marche très bien. Alors moi je suis extrêmement sensible à sa voix et à son sens de la mélodie, mais elle est aussi, il ne faut pas l'oublier, une excellente pianiste. Petit aperçu avec cet extrait de Flipside. Get high, but you wanted me low. Good things are happening, but happening slow. So I'm gonna miss you even long ago. I finally know who I'm supposed to be. My mind was locked, but I found the key. Hope it don't all slip away.
C'est presque bluesy là.
Oui,
est-ce qu'il y a
exactement.
Un morceau qui vous a particulièrement touché, Eva ?
Oui, alors je m'y attendais absolument pas parce qu'il s'agit d'une reprise. Norah Jones, seule au piano pendant 7 minutes pour cette reprise de Black Hole Sun du groupe Soundgarden. C'était un hommage à Chris Cornell enregistré au Fox Theater de Détroit. C'était quelques jours après sa mort, la mort du chanteur et guitariste du groupe américain. Et tout au long du morceau, le public réagit. Outre l'émotion qui est provoquée par la reprise, donc portée par la voix de Norah Jones, le morceau illustre parfaitement à quel point la musique est faite pour vivre sur scène, pour être un moment de partage aussi. L'album s'appelle Till We Meet Again et sort aujourd'hui sur le mythique label Blue Note. Alors Émilie, je sais que vous avez notamment fait les premières parties d'Ibrahim Malouf dans les grands zéniths de France. Je me suis demandé quelle était la place du jazz dans vos playlists.
Elle est très importante. J'ai grandi vraiment en écoutant beaucoup de jazz. J'ai appris à chanter beaucoup en écoutant Ella Fitzgerald surtout. C'était vraiment mon idole, mon oiseau. J'adore l'avoir chantée. Elle a une simplicité quand elle chante. On sent qu'elle ne réfléchit pas, elle ne s'observe pas, juste elle chante. Et elle est très importante dans mon cœur de musicienne. Et le jazz en général, oui, bien sûr, par mon père qui en a écouté énormément, qui en écoute beaucoup. C'est vraiment une musique que j'aime profondément. Donc on était effectivement, quand on a pu faire la première partie d'Ibrahim Malouf dans tous les zéniths de France, on était les plus heureux du monde. On a aussi fait la première partie de Jamie Cullum il y a quelques années.
Ah oui, ouais, mais
justement, je suis fan absolue, vous pouvez pas imaginer.
Ouais. Et justement, c'est marrant parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur la catégorisation, le monde du jazz qui finalement est assez fermé, on le voit, il est assez puriste en fait. On décide de qui peut entrer ou non dans cette case du jazz. Et pareil pour le classique d'ailleurs, hein, je me souviens, pardon.
On est bien d'accord, c'était juste pour dire que si vous ne vous souvenez pas tout de suite, on ne pourra pas enchaîner. Vous vous souvenez que...
Je me souviens d'une anecdote de Jamie Cullum justement.
Elle est formidable cette anecdote, on la dira juste après ça. Eva Rock, merci.
Redis
le titre de l'album de Norah
Till
Jones.
Till We Meet Again.
C'est en live dans un instant. Notre deuxième indispensable, c'est Charlotte Langrand, mais d'abord musique, Imani.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not stand there on my own. Look at me standing here on my own again, straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. I'm not so alone. Look at me here, here on my own again. I'm straight in the sunshine.
Wonderful Life, c'était Imani sur Europe 1. C'est une reprise évidemment. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Charlotte Langrand qui va nous parler d'un condiment de saison très prisé.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Émilie Satt, la chanteuse créatrice du groupe Madame Monsieur, on va parler gastronomie. Mais d'abord, on voulait tous connaître cette anecdote avec Jamie Cullum racontée.
Ma fameuse anecdote, je fais court. Jamie Cullum me racontait que quand il allait au conservatoire apprendre le piano, il tombe sur ce piano magnifique, un piano à queue immense dans une superbe pièce. Il s'approche pour jouer et découvre un panneau sur le piano écrit, il est interdit de jouer du jazz sur ce piano. Et c'est ce qui lui a donné envie, après, je pense, de les maltraiter comme il fait, c'est-à-dire de monter dessus, de sauter, de jouer.
Et de faire du jazz. Voilà. Pas de catégorisation ici. Bonjour Charlotte Langrand.
Bonjour Philippe Vandel.
On parlait de gastronomie, on parlait de l'ail sous toutes ses formes, notamment une variété dont on parle de plus en plus. C'est l'ail des ours.
C'est
comme
ça.
De l'ail qui appartiendrait à un ours. C'est quoi?
C'est un ail sauvage, en fait, qui ne ressemble pas du tout à une tête d'ail. Hein. Il n'a pas cette forme de bulbe. C'est une feuille, en fait, très verte, très tendre, qui se cuisine comme une herbe. Alors, plusieurs explications à son nom. Il n'a pas la forme, mais il a le parfum de l'ail. Et la légende raconte que l'ail des ours sort de terre en même temps que les ours de leur caverne.
Je pensais que c'est parce qu'ils aimaient bien ça comme le miel. Pas du tout alors.
Peut-être aussi. En tout cas, il sort de terre depuis 2-3 semaines. Enfin, en tout cas pour l'ail des ours. Hein. Les ours eux-mêmes, je ne suis pas allée vérifier. On est en plein dans la saison, de mi-mars à fin mai. Il envahit d'un coup les sous-bois, les forêts. Il aime l'obscurité et l'humidité. Et puis, il rend fou les passionnés de cuisine qui inondent littéralement les réseaux sociaux de photos de recettes à l'ail des ours en ce moment.
Alors comment on la reconnaît cette plante?
Alors elle a des feuilles longues et pointues, un peu en fer de lance comme ça, mais alors faites surtout très attention à ne pas la confondre avec celle du muguet ou de la colchique qui lui ressemble beaucoup, qui sont toxiques en plus, exactement.
Non mais je dirais, on va pas confondre avec du muguet, si ça ressemble à ce
ça
point.
Ça ressemble beaucoup, donc pour vérifier, vous frottez la feuille entre vos mains et si ça le sent l'ail à plein nez, bah, c'est que c'est bon, ou alors si vous avez encore un doute, vous pouvez pouvez faire vérifier, comme pour les champignons, chez le pharmacien.
Là, vous parlez pour les gens qui font la cueillette vraiment dans les bois, pas les gens qui vont l'acheter sur le, chez un
oui,
marché.
Oui, bien sûr, là c'est vérifié, c'est ça. Les chefs, eux, évidemment, ils savent les reconnaître, ce sont des cueilleurs depuis longtemps, surtout en montagne. Bien sûr, Marc Vera, on connaît, aussi Jean Sulpice, près du lac d'Annecy, Emmanuel Renaud à Megève ou Florent Ciccoli au Café du Coin à Paris, qui en met sur des pizzettes. Sans oublier, évidemment, les pionniers de la prairie dans l'assiette, les Brasses à l'aïeul, dont la mythique salade d'herbe, appelée le gargouillou, en contenait déjà il y a bien 30 ans.
Et puis, il y a un autre ail de plus en plus répandu dans les marchés, c'est l'ail noir.
Oui, l'ail noir, c'est une spécialité qui est arrivée du Japon il y a une dizaine d'années, un ail confit. Son truc à lui, c'est de garder les avantages de l'ail sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'en changeant de couleur, il développe ses arômes, mais il perd son agressivité pour la laine et pour la digestion. En gros, il vous évitera de vivre ce grand moment de torture digestive du film Les Bronzés font du ski.
À la vôtre, hein.
Merci,
Et puis bonne chance, surtout. C'est fort.
C'est pas une boisson pour mauviette.
Je fais cette merde.
C'est de la liqueur d'échalote. Mais c'est relevé au jus d'ail. Parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade.
Oui, c'est quand ils boivent chez les montagnards.
Exactement, scène mythique. Alors, pas de souci de ce genre donc avec l'ail noir, qui est en fait très doux, presque sucré, avec des notes de pruneau ou de cèpe ou de vinaigre
balsamique. Et donc, il est traité, c'est pas un ail naturellement noir.
Non, il est confit, en fait, c'est D'accord. ça. On peut en manger de l'entrée au dessert, mais justement, le seul problème quand même, c'est que pour l'obtenir, c'est très long. Au Japon, par exemple, il fermente pendant un mois dans de l'eau salée. Oui. Ou alors, il y a un des seuls producteurs en France qui, lui, met des gousses d'ail pendant plusieurs semaines dans un four à basse température. Donc, bref, autant l'acheter en magasin.
Pas très économique.
Ouais. Est-ce qu'on a une recette plus simple à faire que l'ail noir?
Oui, alors revenons à l'ail des ours, du coup, parce que ce condiment, on peut en faire plein de choses. Cru, cuite, pour des mouillettes avec un œuf à la coque, du fromage frais pour l'apéro. On peut faire un beurre aromatisé en incorporant des feuilles hachées dans un beurre un peu mou. Mais le classique ultra simple, c'est le pesto d'ail des ours. Vous pouvez laver, essorer 200 g de feuilles d'ail des ours. Vous les mixez avec 10 centilitres d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, quelques pignons de pain. Non, vous dosez bien. Non, franchement, c'est un goût quand même assez subtil, assez doux. Donc c'est pour ça, c'est vraiment les avantages sans l'inconvénient de l'ail. Ouais. Et puis, vous le conservez dans un bancal, vous le mélangez avec des pâtes, avec des légumes, vous assaisonnez vos viandes, vous tartinez sur du bon pain. C'est un petit festin de chlorophylle pour ce week-end, Philippe.
C'est tentant, j'ai envie d'essayer. Je vais essayer. Vous avez déjà testé ?
J'ai déjà testé, je ne l'ai jamais cuisiné.
Ouais. Et l'ail noir, moi j'ai déjà testé, c'était très très bon au restaurant. Quand moi j'ai essayé, c'était...
c'est ça.
Je vais dire la vérité, c'était raplatouille. Voilà.
Ouais,
c'était
ouais,
pas super. La table des bons vivants, ça sera pas raplatouille. C'est quoi le programme?
Non, c'est pas raplatouille, c'est demain à partir de 11h. Vous avez justement un dossier sur la cueillette et toutes ces herbes qu'on peut récolter en ce moment soi-même. Et puis un dossier sur cuisiner en famille avec les recettes de Julien Duboué, Laurent Mariotte, Yves Candebord.
Ouais.
Donc rendez-vous demain à partir de 11h.
Ouais. Et puis en ce moment, on a le temps de cuisiner. Vous cuisinez beaucoup, vous?
Oui. Beaucoup, beaucoup.
Votre spécialité, c'est quoi?
Alors, j'aime bien tout ce qui est plat réconfortant à partager dans une bonne cocotte en fonte.
J'ai bien compris que le réconfort en ce moment, c'était votre mood.
Oui, c'est vrai.
Merci Charlotte Langrand, Émilie Sade, pour rester avec nous. C'est la dernière ligne droite de Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie d'Émilie Sade, c'est la moitié du groupe Madame Monsieur. C'est un groupe de pop, mais pas seulement. Vous nous disiez avoir démarré avec des sons vraiment rap dans vos premiers EP. Il y a un single qui vient de sortir qui s'appelle Cœur Brisé. Et puis cet album Tandem, 20 City, tout en duo. Vous étiez connu, vous étiez fait connaître du grand, grand public à l'Eurovision. Vous représentiez la France en 2018. C'était avec le titre Merci. Il y a un Y à la fin de Merci. Petit rappel. C'était à Lisbonne, devant 11 000 personnes. Je fais référence à ce que disait Eva et à tous ces concerts de musique qui nous manquent, mais également devant 200 millions de téléspectateurs. Vous n'avez pas gagné, vous avez fini 13e, ce qui n'est pas déshonorant. Comment vous avez vécu cette période? Il y a un avant et un après l'Eurovision?
C'est certain, il y a un avant, un après. On a vécu cette période en prenant tout ce qu'on pouvait en prendre, le meilleur. On a grandi vraiment très fort pendant ces quelques mois de préparation en amont de la grande soirée. Parce que on pense toujours que l'Eurovision, c'est une soirée. Mais en fait, il y a tout un travail en amont de concerts un peu partout en Europe, de présentation de la chanson.
Avant même Destination Eurovision. Parce qu'il y a eu ce concours que vous avez remporté en France, Destination Eurovision. Déjà, là, c'était du travail.
Ça, c'était du travail, c'était formidable parce que c'était la première fois que les gens, le public, pouvaient choisir la chanson qu'elle allait les représenter. Et on était extrêmement honorés que les gens aient voté pour cette chanson-là.
Et ensuite, il a fallu faire une tournée dans toute l'Europe pour vous faire connaître.
C'est ça, il y a tout un travail préparatoire en amont. On va rencontrer les eurofans un peu partout en Europe, même plus loin.
Je ne savais pas que ça existait, les eurofans.
Ah non, c'est tout un monde, hein, l'Eurovision. Vraiment, on a découvert ça. On connaissait bien l'Eurovision, mais comme un peu tout le monde. Et on a découvert l'envers du décor, qui est passionnant, très très bienveillant, et qui nous a porté, vraiment.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas auparavant?
On a appris qu'on faisait de bonnes chansons, puisque c'est les gens qui ont choisi notre chanson pour les représenter. Ça nous a donné confiance en nous, donc vraiment, et ça c'est quand même primordial quand on est un artiste, sachant que les artistes sont pétris de doutes, c'était très important. Et je pense que c'est vraiment l'essentiel, et surtout ce que ça nous a apporté, c'est une rencontre avec un public par le moyen de la télé.
Un tourbillon de janvier à mai, vous racontez au journal Le Progrès, un journal de Lyon, entre la finale de Destination Eurovision et la finale de l'Eurovision, on n'a quasiment plus mis les pieds chez nous, et vous avez ajouté « Ce concours nous aura permis de nous faire connaître du monde entier, avec des messages reçus de partout. » Et derrière tout ça, il y a forcément une redescente. Comment s'est passée la redescente ?
Fou, c'est le lendemain de la finale de l'Eurovision. On est descendu vraiment très bas, comme si toute la pression redescend. D'ailleurs, il paraît que même chez les préparateurs et les organisateurs et les gens qui travaillent à l'Eurovision, il y a ce même blues énorme qui arrive. On a ressenti ça vraiment très fort. On était épuisés aussi après tous ces mois de travail. Et après, l'histoire est importante puisqu'il faut réussir à la construire. Donc c'est très important de rester comme dans l'esprit des gens comme ayant fait l'Eurovision, mais de s'en détacher un petit peu aussi. Ça, c'est pas forcément une mince affaire.
Alors, détaché ou pas, vous allez me dire, parce que Merci, c'est pas simplement une chanson, c'est également l'histoire d'une petite fille.
Tout à fait.
Je vais la résumer. L'histoire d'une petite fille qui était née en mars 2017 sur un bateau, qui était venue secourir des migrants en mer. Donc, elle existe toujours.
Tout à fait.
Elle a quel âge ?
Elle a 3 ans.
Vous la revoyez ? Vous l'avez revue ?
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles vont très bien. On a des nouvelles très régulièrement. On est auprès d'elles depuis ces 3 ans. On a sorti un livre qui est pour les enfants, à destination des enfants, qui raconte son histoire.
C'est un livre illustré,
oui, pour enfants, qui illustre simplement les paroles de la chanson.
Ouais.
Parce qu'on a reçu tellement de messages du monde entier et de parents, de professeurs, d'enfants qui nous disaient mais c'est formidable parce qu'avec cette chanson on arrive à aborder le thème de la migration, des migrants, d'une façon douce et d'une façon plus humaine. Donc on a eu l'idée de poursuivre avec un livre.
Et le livre, les bénéfices du livre
sont pour Merci et sa maman.
Et il y en a eu des bénéfices ?
Il y en a eu. Après, ce qui est dommage, c'est que le livre est sorti en plein confinement, justement.
Ouais.
Donc toute la promo qu'on voulait faire a dû être annulée. Mais je pense que ce sera décalé. On en a parlé avec l'éditeur. Justement.
On peut le trouver. L'éditeur, c'est Stenki, c'est bien ça. Et on peut le trouver sur les plateformes. Je ne vais pas citer la plateforme américaine. Ça peut se trouver sur Fnac.fr. C'est quoi
ça
le titre ?
Ça se trouve partout, chez les libraires.
Et les
Je m'appelle Merci. Ouais.
Je m'appelle Merci. Oui. Merci d'avoir avec nous. Prochain album, ça sera quelle tonalité ? Ça va être du rap ? Ça va être quel genre ? Parce que comme vous amusez à mélanger tout, vous êtes même le seul, comme vous dites, des petits chanteurs pop qui font l'Eurovision et qui font un duo avec le rappeur Kalash Criminel. Donc ça va être quoi le prochain coup ?
Alors le prochain coup, c'est le résultat de cette année vraiment à deux. Donc ça sera un album beaucoup plus de chansons, vraiment Madame Monsieur comme à l'origine, c'est-à-dire des chansons pop.
Un peu comme dans Cœurs Abîmés ?
Un petit peu comme dans Cœurs Abîmés.
Cœurs Abîmés, ouais. Qu'on entend maintenant. Merci d'avoir été avec nous, Émilie Sat. On salue Jean-Carl qui nous écoute, Madame Monsieur qui reviendra bientôt dans les bacs, comme on dit. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média avec la nouvelle saison de Clem sur TF1. Nous sommes avec le comédien Lou Denis Hélion et le producteur Fabrice Renaud et puis le trio 47 Terres pour Légende. C'est un nouvel album. Tiens, encore entre pop et rap. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff, ça fait du bien. Je vous dis bon week-end, je vous dis à lundi. Salut.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.